Chapitre 8. Tout l'irritait. Si sa femme avait été gémissante, il se fût emporté, et l'humeur courageuse de Frédéric l'impatientait. Le nombre personnel était remplacé par 3 heures de femme de ménage, et Frédéric s'ingéniait pour que son mari trouvât autour de lui un semblant de confortable. Non pas qu'il se plaignît des lacunes matérielles, il en souffrait pour sa femme et ses enfants, pour lui-même, il les dédaignait. Madame Loral proposa d'aider sa fille, mais Frédéric se borna à lui confier ses fils pour les promener. Elle savait que la présence fréquente de sa mère blesserait ou fatiguerait son mari. « On répète toujours, lui dit-elle un soir, que dans le malheur, les amis nous abandonnent. Nous voyons le contraire. J'ai reçu des visites très aimables. Nous ne sommes laissés que par les indifférents. » Cet optimisme apparent agaçait Fabien, qui répondit sèchement « Tu jugerais autrement si tu avais vu, de tes propres yeux vus, comment souvent, depuis mon malheur, j'ai été reçu par mes relations de la finance ou du commerce. Tu venais en solliciteur. Eh bien, est-ce une raison? Avant ma ruine, j'étais toujours disposé à rendre service, à secourir des déshérités, alors pourquoi cette froideur? Pourquoi tant de refus successifs? Pourquoi, en effet, se disait Frédéric, qui n'osait pas approfondir sa pensée. Lui savait bien qu'on soupçonnait son intégrité, que les refus dont il se plaignait étaient motivés par le soupçon ou la certitude, et il tomba dans une rêverie pénible. Frédéric ne lui avait pas communiqué une lettre de la jeune madame de Paulin. Avec délicatesse, Irène écrivait que son mari serait disposé à prêter des fonds à M. Dauzac. Il n'ose envoyer lui-même sa proposition, il juge qu'il est mieux de la faire passer par l'intermédiaire de notre amitié. Voyez-vous, cher Frédéric, la vie doit être semée de plaisirs très grands qui consistent à rendre de très légers services. Ce que M. de Paulin propose ne nous gênerait en rien et vous aiderait dans cette crise passagère. Jamais, jamais, s'écria Frédéric qui brûla vivement la lettre. L'idée d'un prêt venant de ce côté l'épouvantait, et vaguement, elle saisissait que son effroi condamnait son mari, au moins dans ses audaces. Mais en le regardant tout absorbé, elle souffrait d'une dissimulation sur laquelle elle n'eut pas une seconde la tentation de revenir. La vieille madame de Paulin, malgré son âge, est venue, Fabien. Elle a été bien bonne. Ah, madame de Paulin est venue. Elle aura admiré notre jolie installation. Et par elle, d'Hautefort apprendra ma déchéance. Pensée bien dure. Pourquoi bien dure, chérie? Le nom de d'Hautefort n'a pas été prononcé, et si madame de Paulin parle de notre malheur, elle n'emploiera pas le mot de déchéance. D'ailleurs, où est-il, monsieur d'Hautefort? Perdu en Afrique. Je n'ai jamais compris la raison de votre froideur subite, si ce n'est qu'il se croyait amoureux de moi. Raison suffisante. Il se disait inquiet de mon ambition et triomphera en apprenant ma ruine. Il est certain qu'en me fiant à la parole des autres, j'ai été stupide. D'Hautefort jouira de ma stupidité. Comment? Est-ce ainsi que tu le juges? Moi, je suis convaincue que la nouvelle l'affligera. Tu es absurde. Tu ne connais pas la nature humaine, répliqua-t-il en frappant du pied. Elle ne le reconnaissait plus et ne savait comment l'influencer. Il ressemblait à un fagot d'épines auquel on ne touchait pas sans se blesser. Néanmoins, elle le jugeait avec une épuisable indulgence, d'autant qu'il s'excusait fréquemment. « Voyez-vous, disait-elle à son père, il souffre trop et il renferme sa souffrance qui ne se manifeste que par un changement de caractère. Je le crois honteux de la place obtenue avec peine dans un bureau. » Honteux? Tant pis, un homme qui travaille ne doit pas être honteux, répondit Loral, qui jusque-là avait évité les critiques. Mettez-vous à sa place, cher père. Je me mets à la tienne. Tu étais si heureuse, tu jouissais tant de ta position, et te voilà devenu Gros-Jean comme devant, ajouta-t-il en essayant de sourire. Très heureuse d'avoir été Gros-Jean, parce que dans cette vie si réduite, je sais comment m'y prendre. Et puis, quoi? Que veux-tu dire? Que les 100 000 francs dont je dispose pourront l'aider quand une excellente occasion se présentera. Il te l'a dit ?
Oui.
Garde cet argent, Frédéric. Cependant, vous avez trouvé tout de suite un acquéreur pour votre propriété. Le résultat a-t-il donc été absorbé complètement ?
Absorbé. Il importait de sortir du gâchis la tête haute.
Mais il te restait à toi 200 000 francs, et tu parles de 100 000 ?
Elle inclina la tête sans répondre et laissa M. Loral tout désolé.
La démarche affectueuse de Mme Irène de Paulin lui était trop pénible par les idées qu'elle éveillait dans son esprit pour en parler à son père. Elle avait répondu à son amie.
« Bien chère Irène, nous sommes presque de nouveau venus dans votre intimité et voici que vous et M. Paulin agissez comme de vieux amis n'agissent pas toujours. Je n'insiste pas sur ma reconnaissance. Tranquillisez-vous, la situation est nette et si notre vie actuelle est petite, elle se transformera un jour.
Vous permettrez que je ne parle pas à mon mari de votre affectueuse proposition. Des raisons sérieuses que vous connaîtrez quand je vous reverrai m'imposent le silence.
Combien je vous aime et merci, merci de tout cœur. »
Un matin, une heure après le départ de Fabien pour son bureau, elle entendit sonner. Obligée d'ouvrir elle-même, elle introduisit dans son minuscule salon un homme d'un certain âge qui paraissait irrité.
« Monsieur Dauzac, n'est-il pas ici ? » demanda-t-il d'un ton brusque.
« Il est sorti. Je suis Madame Dauzac et puis lui faire votre commission. »
« C'est à Monsieur Dauzac que je voudrais parler pour lui dire ce qu'il mérite d'entendre. »
« Ce qu'il mérite d'entendre, que signifient ces paroles insolentes ? » dit-elle avec une vivacité qui interloqua le visiteur. Mais il se remit promptement.
« Madame, je regrette de vous faire de la peine. Je ne suis pas un méchant homme, mais j'ai prêté 80 000 francs à votre mari, les économies de toute ma vie. Où sont-elles, mes pauvres économies ? Monsieur Dauzac devait les bien placer.
« Comment vous appelez-vous ? Qui êtes-vous ? »
Je m'appelle Louvain, contremaître dans un garage. Votre mari me connaît de longue date. Je lui ai souvent arrangé ses autos. Je l'ai consulté pour le placement de mon argent. On le disait si fort. J'osais à peine lui parler. Voici mon reçu, madame.
Frédéric dissimula son trouble en constatant qu'à la date du reçu, les affaires de Fabien étaient compromises.
Je ne suis pas un homme d'affaires, moi, reprit Louvain. J'ai eu confiance. « Je ne suis pas venu plus tôt parce que j'étais malade au moment de la déconfiture. »
Le premier mouvement de Frédéric eût été de signer un chèque sur la somme dont elle disposait. Le second fut de penser que ce serait une imprudence et qu'il fallait l'appui de son père.
« Revenez demain matin, monsieur. Vous ne perdrez rien car mon mari est incapable de tromper sciemment. Vous n'êtes victime que d'un oubli. Vous devez comprendre le désarroi apporté par une ruine. « Provisoire d'ailleurs, j'en suis convaincu. »
Louvain, très adouci, regardait du coin de l'œil l'appartement mesquin.
« Ah oui, je comprends bien. Alors, à demain, madame. »
Frédéric chercha à s'étourdir par ses nombreuses occupations de la matinée. Elle voulait être elle-même pendant le déjeuner, mais son mari remarqua ses efforts pour suivre la conversation et conserver son calme.
« Tu es agité, Frédéric. »
« Dis plutôt que je me suis beaucoup agitée ce matin. Il m'en reste quelque chose. » Dans la journée, profitant de la promenade des enfants avec leur grand-mère, elle courut rue Cassini. Le bon visage accueillant de son père lui fit perdre son sang-froid. Elle se jeta dans les bras de Loral en sanglotant.
« Eh bien, eh bien, qu'as-tu encore, ma chérie ?»
Elle lui raconta les faits.
« Fabien savait qu'il entraînerait ce pauvre homme dans une mauvaise passe. Affreux d'être obligé de lui imputer une aussi laide action. »
Loral pensait depuis longtemps que le terrain était préparé pour sombrer définitivement dans l'improbité.
« Tu t'affoles sans grande raison, » dit-il avec calme. « Ton mari croyait à la réussite d'une spéculation dans laquelle il s'était lui-même engagé. »
« Quand il a conseillé Louvain, il avait de grandes inquiétudes
et de grands espoirs.
« Je n'en sais rien. « Enfin, j'ai la libre disposition de mes 100 000 francs et je veux rembourser cet homme sans que Fabien paraisse. »«
Pourquoi ne pas t'entendre avec ton mari ?»«
J'aurais peur de moi.
Des reproches aggraveraient sa souffrance et nous désuniraient peut-être. Je veux le mettre en face du fait accompli.
Alors il ne restera rien pour toi et tes enfants ?
À peu près rien, si ce n'est le nom sans tache de Fabien.
Sans tache, pauvre enfant, quelle illusion ! Pensait Laurel.
Tu ne connais pas l'individu, reprit-il. Dit-il la vérité ? N'est-ce pas un chantage ?
Il m'a montré son reçu. Voici son nom, son adresse. L'adresse du garage où vous aurez des renseignements sur lui. Il a l'air d'un honnête homme et j'ai failli lui remettre un chèque, mais j'ai réfléchi que je devais avant tout vous parler.
Oui, répondit Laurel en prenant son chapeau. Je vais voir Louvain.
Répétez-lui de se présenter demain matin. À 10 heures, je suis sûre d'être seule avec vous. Fabien ne rentre qu'à 12:30. Voudrez-vous aussi prévenir la banque ?
Voici l'adresse.
Pour la première fois de sa vie, Laurel s'insurgeait contre sa pauvreté. Il ne voyait pas pleurer sa fille sans avoir envie de pleurer lui-même. Il regrettait amèrement que fût perdue la somme qu'il assurait une bouchée de pain à ses petits-enfants. Toutefois, il ne chercha pas à dissuader Frédéric, sachant bien que, sans la réparation d'une tromperie évidente, la vie de sa fille serait empoisonnée. D'ailleurs, à quoi eût servi son opposition ? Fabien, acculé, eut facilement obtenu l'argent. Louvain, en se présentant chez Dauzac, doutait encore de sa bonne fortune. Il croyait trouver Fabien et discuter avec lui. Il fut interdit en apercevant M. Laurel, qui s'était borné la veille à constater la bonne foi du contremaître et à lui conformer le rendez-vous.
« Mon père remplace M. Dauzac très occupé, lui dit Frédéric. Je dispose de la somme qui vous est due. Voici un chèque que vous irez toucher à la banque X rue de Provence. Elle est prévenue et compte sur votre visite demain matin entre 11h30. Veuillez me signer un refus. »
Louvain, qui ne s'attendait pas à une conclusion aussi rapide, demeurait muet.
« Mais, madame, dit-il enfin, c'est à M. Dauzac de régler mon compte.
Ou à moi, nos intérêts sont les mêmes, ne vous inquiétez pas.
Pourtant, j'aurais mieux aimé, je ne sais si je puis, si je dois.
Votre argent, c'est votre argent, madame.
Et celui de mon mari, dit-elle en souriant. Je suis libre d'en disposer, n'est-ce pas, cher père?
Signez sans crainte, monsieur, et soyez satisfait sans arrière-pensée. Ma fille a des arrangements spéciaux avec son mari.
Pour sûr, je suis satisfait, affirma Louvain en signant. Et je remercie bien madame de m'avoir tiré si vite d'embarras.
Après son départ, Frédéric déclara. Jusqu'à nouvel ordre, je ne dirai rien à Fabien. Quand il sera lui-même, je lui avouerai.
Mais le revenu disparu.
Ne signifie rien. Moi seul touche les coupons.
Louvain, le lendemain, en sortant de la banque, tourna dans la rue Tête-Boue et se vit face à face avec Fabien qui, d'un air sombre, sortait de la maison où il travaillait.
Louvain, tout à sa joie, vint lui tendre la main au grand ennui de Dauzac qui, se rappelant soudain son emprunt, déguisé sous de funestes conseils, eût donné n'importe quoi pour éviter la rencontre.
« Je voulais vous voir, monsieur Dauzac. Vous ne répondiez pas à la lettre que je vous ai envoyée en sortant d'une maladie, alors je suis allé chez vous, pas content, vous comprenez ? Je croyais mes économies perdues, mais vous avez une petite femme qui s'y entend, ma foi.
Que voulez-vous dire ?
Comment, vous ne savez pas ?
Je commets une indiscrétion, diable.
En aucune façon, madame Dauzac n'a pas de secret pour son mari.
Il était trop tard pour reculer et Louvain raconta ses entrevues avec Frédéric.
J'ai insisté pour régler avec vous, mais elle m'a dit que vos intérêts étaient les mêmes et qu'elle avait le droit de vous remplacer. Quelle gentille dame ! Et moi, qui arrivais en colère !
Ma femme a fait ce qu'il fallait faire, répondit froidement Dauzac. Elle voulait que l'affaire fût réglée avant de m'en parler. Mais je ne vous avais pas oublié, je comptais m'occuper de vous. Malheureusement, j'ai plus que des tracas.
Je ne vous en veux pas, répliqua Louvain, qui, ayant parfaitement compris la situation, n'ajoutait aucun crédit aux affirmations de Fabien. Nous restons bons amis, si j'ose dire. Mais vous paraissez bien fatigué, monsieur Dauzac. Soignez-vous, vous êtes homme à remonter sur votre bête. Je remonterai, soyez tranquille. »
Il salua légèrement et, d'un pas lourd, s'achemina vers son appartement qu'il avait en horreur. Il lui fallait toujours un effort pour y rentrer, malgré les affections qu'il attendait. Les enfants étaient chez leurs grands-parents et, après un déjeuner silencieux, Fabien dit brusquement « J'ai rencontré le contremaître Louvain. » Frédéric devint toute pâle. « Ne t'émotionne pas, ma chérie. Louvain sortait de la banque. Tu as sacrifié nos dernières ressources. » « Il le fallait, Fabien. C'était une dette. Si tous ceux qui ont des dettes payaient... Et puis, ce n'était pas précisément une dette. Nous avons assez prouvé que nous étions honnêtes. Il ne nous reste rien. Enfin, je te remercie et tu as la satisfaction d'avoir agi selon tes idées. » « Elles sont les tiennes, ami. Les économies de cet homme étaient perdues d'après tes conseils. Je croyais servir ses intérêts. Tu sais trop bien que nous sommes engloutis dans le désastre. Aucun doute sur ta bonne foi. » Mais ce doute existait et devait ternir un amour toujours profond. Soit que Fabien devinât dans le cœur de sa femme les secrètes répercussions de ses actions équivoques, soit que la ruine l'eût brisé, il tomba dans une mélancolie qui détermina une grave maladie. S'il ne souffrait pas physiquement, il s'affaiblissait de jour en jour. Frédéric, soutenu par ses parents, put l'entourer d'un bien-être relatif et le soigna avec une sollicitude aussi tendre qu'indulgente. Cependant, il ne cessait de critiquer avec dégoût son installation et la moindre contradiction le mettait hors de lui. Puis il disait, comme un enfant qui s'excuse, « Pardonne, Frédéric, je suis malade. Guéri, je ne serai plus le même, tu verras. Je recouvrerai mon énergie, je travaillerai de façon à te rendre la vie d'autrefois. Nous serons riches et heureux. » Mais il ne devait pas guérir. Pendant l'agitation de sa vie, il avait omis de penser à Dieu. Lorsqu'il se jugea très malade, lui-même demanda un prêtre. La main dans celle de sa femme, il partit après avoir reçu tous les secours religieux.